Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Business Model Nouvelle Génération » et l'édition française de Business Model Generation, ouvrage de stratégie et d'innovation conçu par Alexander Osterwalder et Yves Pigneur. Publié comme un guide visuel et pratique, il ne propose pas un plan d'affaires traditionnel, mais un langage commun pour décrire la manière dont une organisation crée, délivre et capte de la valeur. Son instrument central, le Business Model Canvas, répartit un modèle économique en 9 blocs reliés entre eux. Le livre s'adresse aux entrepreneurs, dirigeants, managers, consultants et équipes qui doivent clarifier une activité existante ou imaginer une offre nouvelle. Sa finalité est double: rendre les choix économiques visibles sur une seule page et faciliter leur remise en cause collective. Les auteurs traitent le modèle économique comme un système à concevoir, tester et faire évoluer, plutôt que comme un document figé. Des exemples d'entreprises connues et des exercices soutiennent cette approche. L'ouvrage insiste ainsi sur la capacité à explorer plusieurs configurations avant de retenir celle qui paraît la plus cohérente et viable. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le Canvas transforme le modèle économique en système de 9 choix interdépendants. Le Business Model Canvas constitue la contribution la plus identifiable de l'ouvrage. Il organise un modèle économique autour des segments de clients, de la proposition de valeur, des canaux, des relations clients, des sources de revenus, des ressources clés, des activités clés, des partenaires clés et de la structure de coûts. Cette représentation ne vaut pas seulement comme liste de contrôle. Sa force vient des liens qu'elle rend visibles. Une promesse destinée à un segment précis s'implique, par exemple, certains canaux d'accès, un type de relation, des capacités internes et des coûts compatibles avec les revenus attendus. Modifier un bloc oblige donc à examiner les conséquences sur les autres. Le livre aide ainsi à dépasser une vision fragmentée dans laquelle le marketing, les opérations et la finance seraient pensées séparément. La proposition de valeur occupe une position centrale, mais elle ne suffit pas à assurer la viabilité, il faut aussi pouvoir la produire, l'atteindre, la financer et la maintenir. Le format d'une page réduit la complexité sans la nier. Il favorise la comparaison entre plusieurs hypothèses et rend les désaccords explicites. Le canvas sert autant à cartographier une activité déjà en place qu'à formuler un modèle encore incertain. Il donne surtout aux équipes un support concret pour discuter de choix qui restent souvent implicites dans les organisations. Deuxièmement, la proposition de valeur doit être reliée à des clients et à une logique de revenus. L'ouvrage rappelle qu'un modèle économique commence par une compréhension claire des clients auxquels une organisation choisit de s'adresser. Les segments clients ne sont pas une donnée secondaire, ils déterminent la pertinence de la proposition de valeur, les canaux à privilégier et la manière de construire la relation. Une même entreprise peut servir plusieurs segments, mais elle doit alors vérifier si chacun reçoit une valeur distincte et si cette diversification reste opérationnellement soutenable. La proposition de valeur désigne le faisceau de produits, services ou bénéfices qui résout un problème ou satisfait un besoin pour un segment donné. Les auteurs évitent de la réduire à une simple formulation publicitaire. Elle doit correspondre à une raison concrète de préférer l'offre, telle que la nouveauté, la performance, la personnalisation, la commodité, le prix ou la réduction d'un risque. Cette valeur n'existe économiquement que si elle peut être délivrée par des canaux adaptés et convertie en revenus. Les sources de revenus obligent donc à préciser qui paie, pourquoi, selon quelle modalité et avec quelle régularité. Paiement ponctuel, abonnement, location, licence, commission ou publicité produisent des logiques différentes. Cette articulation protège contre deux erreurs fréquentes, concevoir une offre séduisante sans mécanisme de monétisation ou fixer un prix sans lien avec le bénéfice réellement perçu par le client. Troisièmement, les ressources, activités, partenaires et coûts révèlent la faisabilité de la promesse. La partie gauche du canvas examine les conditions nécessaires pour exécuter le modèle. Les ressources clés peuvent être physiques, financières, intellectuelles ou humaines. Elles ne doivent pas être confondues avec tous les actifs disponibles. Seules comptent celles sans lesquelles la proposition de valeur, les canaux ou les relations ne fonctionneraient pas. Les activités clés correspondent aux actions décisives, comme produire, résoudre des problèmes, maintenir une plateforme ou animer un réseau. Les partenaires clés recouvrent les alliances, fournisseurs et coopérations qui permettent d'obtenir des ressources, réduire certains risques ou optimiser les opérations. En les distinguant, le livre aide à décider ce qui doit être développé en interne, acheté ou confié à un partenaire. Cette distinction est particulièrement utile lorsqu'une organisation cherche à croître sans reproduire l'ensemble de ses capacités seule. La structure de coûts complète l'analyse en montrant ce que le modèle exige réellement pour fonctionner. Les auteurs opposent notamment les approches dominées par la recherche de coûts bas à celles davantage orientées vers la création de valeur, tout en rappelant que la plupart des modèles combinent les deux. L'intérêt de cette lecture est de tester la cohérence économique globale. Une relation client, très personnalisée par exemple, exige généralement des ressources et des coûts qui doivent être compensés par des revenus suffisants. La promesse commerciale est donc évaluée à l'aune de son architecture opérationnelle. Quatrièmement, les modèles économiques récurrents servent à élargir le champ des options. Au-delà de la description d'un modèle, le livre propose d'observer des configurations récurrentes afin de stimuler l'innovation. Les modèles dégroupés distinguent notamment les activités de relations clients, d'innovation produit et d'infrastructure, car elles obéissent à des logiques économiques différentes. Les plateformes multifaces mettent en relation plusieurs groupes interdépendants, par exemple des utilisateurs et des annonceurs, et leur valeur dépend souvent des effets de réseau. Les modèles gratuits reposent sur le financement d'un groupe de clients ou d'une activité par une autre source de revenus. Ces schémas ne sont pas des recettes à copier. Ils constituent des points de départ pour interroger les conventions d'un secteur qui est réellement le client. Qui finance l'offre? Quelles activités pourraient être séparées? Et quelle ressource devient stratégique à grande échelle? Cette démarche est importante parce qu'une innovation de modèle économique ne se limite pas à améliorer un produit. Elle peut déplacer la source de revenus, changer le rôle d'un intermédiaire, recomposer les partenaires ou modifier la relation entre coût et volume. Les exemples cités dans l'ouvrage montrent que des entreprises de secteurs très différents peuvent être étudiées avec le même langage. Le bénéfice analytique est de rendre comparables des logiques qui paraissent, au premier abord, sans rapport. L'enjeu reste toutefois de vérifier les hypothèses dans le contexte propre de l'organisation, plutôt que de transposer mécaniquement un modèle réputé innovant. En dernier lieu, la conception collective et la révision continue remplacent le plan figé. Business Model Nouvelle Génération présente la conception du modèle comme un processus collectif, visuel et itératif. Le recours à un grand support et à des notes repositionnables n'est pas un détail de présentation. Il permet aux participants de rendre leurs hypothèses visibles, de les déplacer rapidement et d'observer les effets d'un changement sur l'ensemble du modèle. Les auteurs valorisent une phase d'idéation ouverte, suivie d'une phase de sélection et de mise en forme des options les plus cohérentes. Cette alternance évite de réduire trop tôt la réflexion à une solution familière. Les équipes sont invitées à explorer le modèle sous plusieurs angles, notamment celui des clients, des offres, des ressources, des contraintes financières et de l'environnement. L'analyse doit tenir compte des tendances sectorielles, des concurrents, des évolutions macroéconomiques et des attentes des clients. Le livre défend également une révision régulière du modèle existant. Une organisation qui attend une crise pour s'interroger risque de découvrir trop tard que ses revenus, ses canaux ou ses ressources ne correspondent plus au marché. La démarche ne garantit pas qu'une hypothèse sera juste, mais elle améliore la qualité de la discussion et la vitesse d'apprentissage. Le canvas devient alors un objet de travail partagé entre fonctions différentes, plutôt qu'un document stratégique réservé à quelques décideurs. Sa limite implicite est qu'il doit être complété par des recherches, des données et des tests avant toute décision importante. En conclusion, ce livre convient particulièrement aux porteurs de projets, aux équipes de création de produits, aux responsables de transformation, aux consultants et aux dirigeants qui ont besoin d'un cadre commun pour parler d'un modèle économique. Il est également utile aux étudiants en gestion, à condition de le considérer comme un outil de raisonnement plutôt que comme une formule suffisante pour lancer une entreprise. Son bénéfice pratique est immédiat, il aide à condenser une activité complexe, à identifier des hypothèses fragiles et à relier les choix commerciaux, opérationnels et financiers. Son apport intellectuel est de déplacer l'attention du seul produit vers l'architecture complète qui permet à une offre d'exister et de produire des revenus. Par rapport à de nombreux ouvrages de stratégie, souvent centrés sur l'analyse concurrentielle ou sur la planification détaillée. Business Model Nouvelle Génération se distingue par son langage visuel, sa simplicité d'usage et son orientation collaborative. Il ne remplace ni une étude de marché, ni un budget, ni l'expérimentation auprès des clients. En revanche, il fournit une structure qui permet de savoir quelles questions ces démarches doivent éclairer. Sa place durable dans la littérature entrepreneuriale tient à cette combinaison, un cadre assez simple pour être employé en atelier, mais assez complet pour faire apparaître les arbitrages entre valeur, infrastructure, revenus et coûts. Lu avec esprit critique, il reste un point d'entrée solide pour concevoir, comparer et faire évoluer des modèles économiques dans des environnements changeants. Si vous souhaitez soutenir Alexander Osterwalder, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!